Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast du CSH. Notre sujet, c'est la Grèce antique, puis j'ai ici avec moi aujourd'hui pour en parler mes chers co-animateurs. Donc, Michael.
Bonjour.
Bonjour, Michael. J'ai Alexander.
Bonjour.
Allô. Et Ariel.
Salut.
Et moi, c'est Jeanne. Nous allons commencer avec notre premier bloc, là, qui est un club de lecture. Donc, Michael, parle-nous donc de ton livre que tu as lu sur la Grèce antique.
Oui. Mon livre à moi s'intitule « Le petit atlas de historique de l'Antiquité grecque ». Ça a été écrit par Paul Cabane, un archéologue aussi historien spécialisé dans l'Antiquité. Il est professeur honoraire à l'Université de Paris en ce moment. Donc, son livre se sépare en quatre sections. La première, c'est sur les époques de la Grèce antique. La première et plus pour mettre une structure autour de ça, c'est sur l'Égypte et l'Orient antique. Donc, il y a 8 chapitres, 2 sur l'Égypte et précisément la ville de Thèbes. Le 3e chapitre, c'est sur la Crète minoenne. La 4e, sur l'Égée mycénienne. La 5e, sur la Palestine antique. Le 6e, sur le Moyen-Orient. La 7e, sur l'Empire assyrien. Et le 8e, sur les Phéniciens et Carthage. Donc, c'est tout sur des empires qui vivaient en même temps que les Grecs antiques. C'est comme je disais, pour faire une structure autour de tout ça. Donc, Paul Cabane, lui, est archéologue, donc ça se reflète beaucoup sur son travail. C'est beaucoup sur des analyses archéologiques des résidus de l'Empire grec. Donc, c'est relativement dur à comprendre pour quelqu'un qui s'y connaît pas en archéologie. Il y a des termes complexes qui sont utilisés de temps en temps, mais en général, on est capable de comprendre. Donc, c'était pour la première section. La deuxième section, c'est sur la section préhellénique de l'Empire grec. C'est séparé en 5 chapitres. La première étant la localisation des différentes structures étatiques en Grèce. Comment ça, la structure politique, entre autres. La 10e chapitre, c'était sur la colonisation grecque durant la période préhellénique. Le 11e chapitre était sur la civilisation perse qui est entrée en guerre par la suite avec la Grèce. Donc, c'est assez important. Le 12e chapitre, lui, porte sur les réformes apportées à l'État d'Athènes par Clisthène, parce que la cité d'Athènes a vécu beaucoup de changements politiques au fil du temps. Ça, c'était un changement assez important, donc un chapitre complet dessus. Le 13e chapitre traite des cités grecques de l'Asie mineure. Ça, c'est les cités grecques qui ont été colonisées, entre autres, par des besoins d'agriculture. Ensuite, ça finit pour la section 2. Pour la section 3, il y a plusieurs chapitres, donc j'entrerai pas en précision. C'est sur l'époque classique de la Grèce. Donc, il y a quand même 14 chapitres. Je vais pas tous les nommer. Bon. Donc, en général, ça parle des guerres de l'époque. C'est la guerre du Péloponnèse, l'invasion de la Macédoine. Ça parle aussi de certains événements qui peuvent sembler moins importants, mais qui sont consacrés à un chapitre, comme la guerre des 10 000, la retraite des 10 000, désolé, qui était un groupe de mercenaires grecs qui se sont battus en Perse avant les conquêtes grecques. Donc, la 5e section, elle, traite de l'époque hellénistique, celle où Alexandre le Grand a entrepris la conquête de la Perse, en fait. Encore une fois, il y a plusieurs chapitres, donc j'entrerai pas en détail dans cette section-là non plus. Mais c'est les conquêtes d'Alexandre, la période où il meurt, comment son empire s'est scindé. Ça finit là, jusqu'à l'époque où Rome envahit la Grèce. Donc, pour ce qui est du contenu du livre, il est assez structuré. C'est beaucoup archéologique, donc c'est sûr que c'est structuré, c'est sur des faits véritables. Ça se base sur des structures qui existent encore aujourd'hui. C'est censé être pour des personnes qui n'ont pas de formation en tant que telle, pour les étudiants ou ceux qui veulent s'initier à l'histoire de l'Antiquité grecque. Mais il y a beaucoup de termes qui sont plus techniques, donc c'est l'objectif est atteint, mais avec une certaine réticence en même temps, parce que ça peut être assez complexe pour ceux qui n'ont pas de formation à ce niveau-là.
Donc, est-ce que tu dirais que tu as apprécié le roman ou non?
Ben, c'est utile pour avoir une idée générale de la situation en l'Antiquité grecque. Pour un travail de recherche ou quelque chose de ce genre-là, c'est pas assez précis, malheureusement, mais oui, j'ai bien apprécié.
Parfait, merci beaucoup, Michael. Alexander, ton livre.
Ouais, moi, mon livre, c'est La politique dans l'Antiquité grecque, écrit par Odile Wattel. Odile Wattel est originaire de la France et est née le 14 juin 1947. Elle obtient son doctorat en histoire ancienne en 1993 et elle poursuit sa carrière au lycée Fénelon à Paris comme professeur d'histoire. Son but de ce livre est d'approfondir l'histoire de la Grèce antique au complet, et non seulement Athènes, Sparte et Rome, qu'elle accroît, qui ont été surprivilégiées lors de ce temps. Alors, dans son livre, elle fait un bref résumé de toute la politique de la Grèce antique. Donc, dans le premier chapitre, elle va commencer à parler de la Grèce primitive et archaïque. Donc, elle explique à clarté le début des premiers systèmes politiques établis avant l'époque de la Grèce archaïque. Donc, Boitel explique que la politique de Domitien, en se référant sur plusieurs détails pour expliquer son hypothèse, elle élabore sur des faits et des observations objectives. Par exemple, elle fait une observation pour expliquer le palais des Mycéniens, ce qui signifiait une puissance royale. Elle poursuit son hypothèse en expliquant que les deux sacs de tombes de fosses, ils ont révélé un matériel funéraire d'une très grande richesse, qui pourrait avoir appartenu à des familles royales ou des chefs militaires, qui pourraient donc provenir d'une aristocratie. Alors, Wattel utilise tous ces détails pour formuler des liens cohérents pour ensuite bâtir une hypothèse sur la politique de la Grèce primitive. Elle poursuit dans le même chapitre, elle explique la naissance du mouvement démocratique à l'aide de textes préservés d'intellectuels de l'époque. Wattel débute en expliquant que, selon la tradition de Thésée, aurait été le père fondateur de la démocratie. Par contre, Wattel, à l'aide de faits de plusieurs historiens, conteste la version de Plutarque, qui explique que Thésée aurait fait venir le peuple Athènes et explique que cela ne correspondait pas à la nature autocratique des royaumes achéens. Alors, ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle critique le point de vue d'un certain auteur pour expliquer que c'était faux et que ça n'aurait pas pu se passer. Donc, elle conteste, en se basant sur les faits, la tradition de Thésée comme le père fondateur, mais confirme qu'il aurait été la figure idéologique qui marquait la naissance de l'État athénien. Ensuite, je vais parler un peu du deuxième chapitre, qui est la politique dans l'Antiquité grecque. Wattel utilise des illustrations pour approfondir ses écrits. Par exemple, lorsque Wattel explique la participation du peuple dans la vie politique, elle montre à l'aide d'une illustration un endroit civique qui aurait pu être utilisé pour la boulée. Cela permettait d'approfondir les connaissances sur les réunions pour les participations de la boulée. De plus, dans le même chapitre, l'auteur explique à l'aide de biographies pour mieux comprendre les actions d'un personnage important. Par exemple, elle utilise la biographie de Périclès pour montrer le premier homme d'État de démocratie. Wattel explique dans le troisième chapitre, ce qui est la fin de la démocratie à Athènes, que la démocratie n'était pas parfaite. Au 4e siècle, la démocratie, le système politique, dans le fond, n'était pas très bien organisé. Elle explique que les impôts jouaient un rôle important dans les finances publiques et c'était inefficace à cause de l'incompétence et la versalité du mot « démos ». Ce système était donc peu organisé. De plus, elle explique à l'aide d'un extrait titré le livre « République de Platon » que les stratèges, les lolographes et les sycophantes utilisaient leur talent oratoire pour s'élever au-dessus de la loi. Donc, ça, c'est un bref résumé de la politique à Athènes. La démocratie n'est pas le seul système en Grèce. En Sparte, c'est un mélange de royauté, aristocratie et démocratie. Sparte était dirigée par une fonction royale héritière entre deux lignes royales. D'ailleurs, Wattel explique que, d'après Hérodote, l'origine de ces deux familles royales provient de deux jumeaux, Proclès et Eristhénène. Donc, finalement, l'intérêt de Wattel était d'expliquer en profondeur l'histoire de la politique. Elle s'intéresse à la culture avant l'établissement de la démocratie et elle poursuit en approfondissant le fonctionnement de ce système politique. Alors, elle utilise beaucoup d'exemples, ce qui rend la lecture vraiment plus claire. Et aussi, elle se base beaucoup sur les anciens historiens, dont Hérodote et Plutarque.
Merci, Alexander. À ton tour, Marielle.
Mon livre, c'est « L'économie et les sociétés en Grèce ancienne », publié en 1972. Il a été écrit par Michel Estin, un lecteur au département d'histoire ancienne à l'Université St. Andrews en Écosse, et par Pierre Vidal-Naquet, un historien français professionnel de l'aspect économique en Grèce ancienne. D'abord, je vais juste mettre en contexte un petit peu le livre. Il est divisé en deux parties. La première partie, c'est les explications en lien avec l'économie. La deuxième partie, c'est des textes de l'époque qui viennent soutenir la première, l'information émise en première partie. Ça donnait beaucoup de crédibilité au texte parce qu'on voyait que c'était pas seulement l'opinion des auteurs. Ensuite, le premier chapitre du livre nous parle de deux courants qui existent pour étudier l'économie en Grèce antique par les historiens. La première façon de penser, c'est les modernistes, qui eux utilisent des concepts d'économie moderne et les appliquent aux trouvailles qu'ils ont faites sur l'économie en Grèce. Et la deuxième, c'est les primitivistes. Ils sont le contraire. Ils regardent à travers l'histoire, par exemple au Moyen-Âge, et essaient de trouver des concepts qu'il avait vu les Grecs utiliser, puis il essaie de voir si ça a progressé à travers le temps. Ensuite, le deuxième chapitre de mon livre, c'est le monde homérique, ainsi que la troisième partie du livre, c'est l'époque archaïque. Ça présente les deux époques les plus importantes de la Grèce ancienne. Dans ce chapitre-là, les auteurs nous décrivent ce qui est connu économiquement et socialement de ces deux époques. L'époque archaïque a beaucoup plus d'informations parce que c'est dans elle que la police verra le jour. La police, c'est un thème qu'on va aborder plus tard dans notre émission. Il y a aussi une énorme progression dans ces deux époques-là au niveau du commerce et de l'artisanat. C'est aussi à cette époque que remontent les origines de la monnaie. Maintenant, dans le prochain chapitre, ça s'appelle Sparte et les cités archaïques ainsi que Athènes classiques. Ça révèle le développement des deux cités-états qui sont très inégalitaires. Puis c'est en utilisant ces deux cités-là que les auteurs nous montrent que l'économie n'était pas la même partout dans le pays. Ensuite, ils nous parlent des cités grecques et de leurs problèmes économiques. Ils présentent les diverses raisons qui sont au cœur des problèmes économiques grecs, comme les politiques d'importation et de non-importation, ainsi que les politiques fiscales des États grecs, les taxes, etc. Pour terminer, le septième chapitre s'appelle « Le temps des crises », qui présente le début d'une période de l'époque où on a vu apparaître plusieurs crises, c'était la guerre du Péloponnèse. Ce chapitre nous présente l'aspect militaire de cette période, mais aussi la façon dont les gens réagissaient face aux crises. À travers le livre, j'ai vu que les individus étaient très importants dans l'économie à cette époque, puisque le commerce et l'artisanat avaient un rôle important, alors les gens se devaient de créer des structures, des... peu importe, et pour ensuite aller les vendre, puisque c'est là-dessus que l'économie roulait le plus. C'est important aussi de comprendre l'impact de la société quand on voit Athènes et Sparte qui se développent de façon très différente. Par exemple, à Athènes, la société prônait davantage la démocratie, alors l'économie était beaucoup plus égalitaire, tandis qu'à Sparte, ça prônait plus la force et le pouvoir, alors c'est le plus puissant qui avait le plus de richesses. J'ai trouvé ce livre que c'est une très bonne... c'est une excellente mise en contexte des différentes théories qui existent pour analyser l'aspect économique de la Grèce ancienne. En plus, nous comprenons qu'il n'existe pas seulement une manière de faire que les auteurs le reconnaissent. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un livre qui défend fortement l'une ou l'autre des théories, il nous fait que les présenter. Ensuite, il y a une bonne suite logique, on part de concepts plutôt généraux pour nous introduire à l'économie, puis après, de chapitre en chapitre, ça devient de plus en plus spécifique. C'est comme si la technique de l'entonnoir, comme on la connaît, a bien été utilisée au courant du livre, ce qui le rend plus fluide. Il est aussi très pertinent d'avoir des textes qui proviennent de la Grèce antique, même s'ils ne sont pas tous évidents à lire, pour prouver l'authenticité des propos.
Et... parfait, merci beaucoup Ariel.
Ça me fait plaisir. Maintenant, Jeanne, est-ce que tu pourrais me parler de ton livre?
Oui, donc mon livre, c'est L'économie des cités grecques. Ça a été écrit par Léopold Mijotte. Et il a été professeur d'histoire ancienne à l'Université Laval de 1966 à 1997. Puis lui, dans le fond, il voulait vraiment mettre à l'écrit toutes ses connaissances de la Grèce antique. C'est un spécialiste justement de l'histoire économique et financière des cités grecques. Puis il a aussi écrit plusieurs livres. Ce livre-là, je trouvais qu'il faisait un portrait vraiment global, clair, puis accessible à tout le monde de ce qui était l'économie en Grèce antique. Puis il se référait aussi au courant de son livre à deux courants opposés, soit le modernisme et le primitivisme. Donc c'est ça. Pour le résumé du livre, c'est divisé comme en quatre chapitres, je crois. Le chapitre 1, il parlait vraiment de comment la structure du monde grec, dans le fond, vraiment le territoire, ça a pu avoir une influence sur le développement de l'économie. Donc en premier lieu, il parlait du milieu géographique, comment le relief, l'activité volcanique ou la proximité de la mer, ça peut avoir un impact soit sur le commerce ou sur les déplacements qui étaient plus ardus. Aussi, il parlait aussi de, dans le fond, la population en général, la santé, aussi, il y avait beaucoup de violence, d'insécurité en Grèce antique, puis ça avait un impact sur l'économie. Dans le chapitre 2, il parlait vraiment de l'aspect du monde de la terre. Dans le fond, il parlait de l'agriculture, et dans le fond, il soutient que l'agriculture, c'est le fondement de l'économie des cités grecques. Les Grecs, ils cultivent plusieurs types d'aliments, surtout les céréales, les vignes, les oliviers. Puis ils font aussi de l'élevage. Il y avait certaines bêtes qui étaient pour des sacrifices, puis sinon ça procure du lait, des herbes, de la laine, puis des peaux. Alors, chapitre 3, il parle vraiment de l'artisanat, puis des entreprises, donc la transformation des produits naturels. Par exemple, le miel avec les abeilles, ou ils prenaient la peau des animaux pour faire des vêtements, puis tout ça, puis ils faisaient des commerces avec ça. Puis le chapitre 4, finalement, ça, c'était vraiment... Je trouvais que c'est la partie qui faisait le plus économie. Il parlait des échanges, donc dans quelles conditions étaient faites les échanges, les contraintes, donc il y avait des frontières, des guerres, la piraterie, puis aussi, il parlait de la monnaie dans ce chapitre-là. Donc, c'est ça pour le livre. Puis, comme je disais précédemment, j'ai trouvé que c'est un livre vraiment idéal pour comprendre la base de l'économie des cités grecques. J'ai trouvé que c'était assez simple, puis on n'avait pas besoin d'énormes connaissances pour comprendre, dans le fond, les propos. C'était juste une petite base en histoire pour savoir se situer un peu, mais sinon, c'était un très bon livre de base. Merci tout le monde de votre participation à notre club de lecture sur la Grèce antique. Maintenant, nous allons enchaîner avec notre deuxième bloc qui va parler, dans le fond, des articles, dans le fond, sur la Grèce antique. Je vais commencer avec Michael. Parle-nous donc de ton sujet.
Oui, donc moi, mon sujet, c'était l'économie. Vous avez parlé des théories modernistes et primitivistes dans vos livres. Moi, je me concentre plus sur celle du primitivisme. Ça, c'est la théorie qui est généralement plus acceptée aujourd'hui, qui dit que l'économie avait un rôle mineur, en fait, dans la vie grecque, plutôt que celle du modernisme où la Grèce utilisait un réseau complexe pour faire une économie quand même assez développée. Donc, premièrement, selon la théorie primitiviste, l'économie en Grèce était surtout basée sur l'agriculture de subsistance. Donc, subsistance, ça implique que ils voulaient avant tout se nourrir, parce que les terres étaient quand même peu fertiles en Grèce, il y avait des problèmes à se fournir de la nourriture, donc il n'y avait pas grand surplus à vendre, donc c'est une des raisons pourquoi l'économie était assez faible en Grèce antique. Donc tout d'abord, au niveau des terres, le travail de la terre était considéré comme une bonne chose pour un citoyen, ça lui permettait d'être utile à la société, en plus ça lui permettait d'être un meilleur soldat parce que ça augmentait sa force physique. Mais c'est pas tous les citoyens qui voulaient faire ça, parce qu'après tout, c'était un travail quand même assez difficile. Donc, il y avait aussi beaucoup d'esclaves qui travaillaient les champs pour les citoyens. Ceux-là étaient quand même mal vus, même si le fait de faire de l'agriculture était bien vu. Donc, l'économie grecque, c'était beaucoup basée sur l'autosuffisance. Comme je vous ai dit, l'agriculture de subsistance, c'était une époque instable. Donc, plutôt que de tenter de faire plus d'argent, le monde essayait plus de juste survivre. Donc, il y avait des problèmes qui bloquaient l'économie à ce niveau-là. Au niveau de la création de biens, l'artisanat, par exemple, c'était moins bien considéré parce que c'était pas nécessaire à la survie de la cité. Donc, ceux qui travaillaient, qui faisaient de l'artisanat, étaient moins bien vus. Ils étaient moins bien acceptés aussi. Il y avait peu de citoyens qui faisaient de l'artisanat, en fait. C'était souvent des esclaves qui donnaient leur profit à leur maître. Donc, c'était pas développé. Juste, il y avait juste les artisans de très haut niveau, très reconnus, qui avaient un certain statut.
Moi, j'ai une question, Michael, pour toi.
Oui.
Est-ce que ça a vraiment influencé le nombre, mettons, de commerces dans la Grèce antique, cette vision-là?
Ben oui, c'est sûr. Parce que, vu qu'ils voulaient subsister avant de faire du commerce, la pensée était pas vers le commerce. Donc, il y avait peu de personnes qui désiraient commencer des choses comme ça. Surtout que, puisque chaque cité-état avait ses propres lois, le transport ou peu importe, quand tu traversais une frontière, souvent tu avais des taxes à payer. Donc ça coûtait cher, c'était pas très viable. D'ailleurs, le commerce par bateau était plus commun dans cette époque-là parce que tu passais pas par des territoires.
Merci.
Donc, encore une fois, pour revenir au niveau de l'agriculture, qu'est-ce qui était cultivé à cette époque-là, puisque l'agriculture était quand même le pivot de l'économie à cette époque? Il y avait l'orge, les vignes, les oliviers. Donc, ce qui était le plus cultivé, c'était l'orge, qui est une céréale qui a pas besoin de beaucoup d'eau, donc c'était facile à faire pousser pour eux. Il y avait aussi le blé, mais ça, justement, ça prend plus d'eau, fait que c'était moins populaire, c'était plus dur à faire pousser, c'était plus un essai qui pouvait amener un meilleur rendement si ça marchait, sinon tu pouvais rien avoir. Il y avait des vignes qui permettaient de faire du vin, les oliviers qui faisaient l'huile. C'est pas mal ça, les cultures les plus importantes au niveau de la Grèce antique. Encore une fois, à part peut-être l'huile qui était plus utilisée pour le commerce, d'ailleurs était remis en prix des fois, ça valait cher à cette époque-là. Les autres, c'est plus pour la subsistance, donc c'est pas vraiment utile au commerce. Comme je l'ai dit, les terres grecques sont pas très fertiles, donc ils ont dû très tôt dans leur histoire, se résoudre à faire des conquêtes pour établir des colonies pour leur permettre d'acheminer de la nourriture en Grèce. Le transport terrestre était pas très utilisé, justement, à cause, comme je l'ai dit, des taxes et autres lois qui pouvaient être différentes d'un territoire à l'autre. C'est l'expansion des colonies grecques qui travaillaient la Méditerranée est arrêtée à un certain point parce que, à l'ouest, il y avait les Phéniciens, les Étrusques et les Romains qui étaient tous des empires marins assez importants qui étaient établis là, donc elles pouvaient pas s'étendre plus. À l'est, il y avait les Perses qui étaient un empire immense à cette époque-là, donc ils pouvaient pas s'établir non plus, fait qu'il est quand même resté dans le bassin méditerranéen. Donc, c'était ça pour l'économie en général. Ça a été une civilisation la Grèce antique, qui commerçait pas tant que ça, mais majoritairement à cause de son instabilité politique et à cause de la vision aussi qu'il y avait de la vie. Mais ils ont quand même réussi à s'établir un peu partout en Méditerranée, donc...
Parfait, merci beaucoup. Alexander, peux-tu me parler de ton article?
Ouais, dans le fond, c'est le changement des frontières sous le régime d'Alexandre le Grand. Donc, principalement, je vais parler d'Alexandre le Grand. Pour commencer, je vais faire une brève biographie d'Alexandre le Grand et aussi de comment qu'il a commencé à prendre le pouvoir. Donc, Alexandre le Grand est né en 356 avant Jésus-Christ du père Philippe II de Macédoine. Donc, très tôt dans la vie d'Alexandre, Philippe II lui accordait un certain pouvoir. Alexandre obtient donc un certain contrôle de la Macédoine environ 340 avant Jésus-Christ. Alexandre avait environ l'âge de 16 ans. Donc, la première fois qu'Alexandre prend le pouvoir est à un très jeune âge de 16 ans. Donc, lors de son emprise, Alexandre vaincre un peuple thrace qui est les Médites. Donc, ça, c'était sa première conquête. Par contre, il prend seulement possession de la Macédoine lorsque son père se fait assassiner en 336 avant Jésus-Christ. Et dans le fond, lui, son but, c'était de le venger en s'attaquant aux rivaux, ce qui étaient les Perses. Donc, c'est à ce moment que Alexandre le Grand s'embarque dans sa campagne de son père, qui avait comme but, comme je viens de le mentionner, de conquérir les Perses. Donc, son premier mouvement se fait à la Grèce. Dans le fond, c'était environ dans les années 336 à 335 avant Jésus-Christ. Et dans le fond, son but, c'était de faire reconnaître son autorité à la Ligue de Corinthe. Donc, son premier mouvement d'Alexandre se produit environ vers les années 335 avant Jésus-Christ. Et son but, c'était de faire reconnaître son autorité à la Ligue de Corinthe. Donc, par la suite, avec le contrôle de la Ligue de Corinthe, il franchit le fleuve de Danube et fait face aux Illyriens, qui l'impressionnent avec ses savantes manœuvres militaires. Étant donné du fait qu'il y avait une rumeur sur sa mort, les Thébains prennent le risque et se révoltent contre l'armée provenant de la Macédoine. Mais cette révolte n'était pas un succès et la Thèbes se fait détruire par Alexandre et son armée. Donc ça, c'était sa première conquête, c'était dans la Grèce. Donc, sa première expédition était en Asie mineure, donc en 334 avant Jésus-Christ. Son deuxième mouvement était de libérer les Grecs en Asie. C'était la première confrontation avec les Perses qu'il y a eu. C'était au fleuve Granique et il y avait absence de leur roi, ce qui était Darius. Cela permet à Alexandre et son armée de défaire une bonne partie de l'armée. Donc, toutes ses conquêtes avaient un succès. Mais son prochain objectif s'annonçait beaucoup plus rigoureux étant donné qu'il affrontait Darius et son armée complète. Alexandre et son armée s'apprêtaient à affronter l'Empire Perse, mais il y avait quand même un désavantage parce que le roi Darius, qui possédait une quantité inépuisable d'or, soudoit l'armée de Sparte aux Perses. Alors, il y avait déjà à partant l'armée perse et aussi l'armée de Sparte qui était opposée contre l'armée d'Alexandre. Donc, malgré cela, Alexandre arrive à une ville qui s'appelle Issos, qui se situe en Turquie aujourd'hui. Et en ayant comme premier objectif, Alexandre arrive à Issos, qui se situe en Turquie d'aujourd'hui, en ayant comme premier objectif de conquérir l'armée perse et ensuite s'enrichir, lui et ses amis, de la fortune de Darius. Donc, en 333 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand confronte et vainque une majeure et lourde partie de l'armée de Darius à Issos. Et ça, c'est sa première conquête. Donc, sa deuxième conquête, ce qu'on pourrait dire son troisième mouvement, était plutôt stratégique. Il poursuit son parcours en longeant la côte de la mer Méditerranée. Étant donné qu'Alexandre n'avait pas assez de navires, il décide de conquérir les villes de la côte afin d'éviter le débarquement des Perses. Donc, il poursuit son aventure vers le sud, il se dirige vers Jérusalem, où il fait que passer, pour ensuite se rendre à l'Égypte. Lorsqu'il atteint l'Égypte, ce qui était environ vers 332 avant Jésus-Christ, il fonde la ville d'Alexandrie. Il avait possession de l'Égypte, par contre, Alexandre n'a pas imposé sa culture, étant donné qu'il avait une entente avec le peuple égyptien. L'entente était qu'il y aurait de la paix tant que les Égyptiens fournissaient les troupes d'Alexandre avec de la nourriture et de l'armure. Le fait d'avoir conquéri l'Égypte donne le contrôle complet de la côte méditerranée à Alexandre. Il poursuit ensuite son aventure dans le but de se prendre à Darius. Alexandre le Grand remonte vers la Syrie et rencontre l'armée de Darius près des plaines de Gaugamel. Par contre, Darius n'était pas là. Donc, lorsque Darius apprend qu'Alexandre est arrivé, il recule une partie de son armée et il se fuit en Médie, faisant Alexandre le maître de la Mésopotamie. Toujours à la recherche de Darius, il s'est ensuite dirigé à Bactrie et il poursuit sa quête et se dirige vers l'est en s'orientant vers les Indus. Puis c'est environ vers 330 avant Jésus-Christ qu'Alexandre entame les portes caspiennes pour poursuivre vers l'Afghanistan d'aujourd'hui, l'endroit que Darius est pris en otage dans les mains des grands féodaux et se fait par la suite assassiner. Donc Alexandre poursuit vers les Indes et finit par mourir. Suite à sa conquête des Indes, il revient vers Babylone où il veut retourner en Grèce. Par contre, il décède à cet endroit environ vers 323 avant Jésus-Christ et son royaume se fait morceler en trois, dont celui de Ptolémée en Égypte, celui de Séleucos en Asie et de celui d'Antigone en Macédoine. Merci.
Merci, Alexander. Ariel, peux-tu nous parler de la polis grecque en faisant des liens avec l'État moderne comme nous le connaissons?
Bien sûr. Et comme Jeanne l'a mentionné, je vais parler de l'aspect plutôt politique étant la polis grecque, ce à quoi j'ai fait référence plus tôt dans notre podcast. D'abord, il faut comprendre que la polis, les historiens l'ont traduit comme étant cité-État, sauf que selon certains historiens, il y aurait eu une faute de traduction, il faudrait pas utiliser le terme cité-État, parce que le terme polis aurait plusieurs définitions, dont agglomération urbaine, pays, communauté, en référence au terme moderne que nous employons. Alors, compte tenu de cet article, je vais pas faire la différence entre le mot État et polis, mais il faut comprendre, pour certains historiens, il y aurait eu une faute de traduction. L'État comme nous le connaissons aujourd'hui ressemble beaucoup à la polis grecque, à la différence près que la polis grecque est une fusion de l'État et de la société. Les historiens n'arrivent pas à s'entendre quant à la date d'apparition des cités-États. Certains parlent de la Mésopotamie, ce qui est très tôt dans l'histoire, tandis que d'autres auteurs parlent de Machiavel, qui arrive plutôt dans les années 1500. Il y a trois caractéristiques pour parler de la polis, il y a les mêmes pour parler de la cité-État. La première, c'est le territoire. Par contre, pour la polis, les frontières sont plus ou moins importantes, alors le territoire n'a pas une très grande importance. Ensuite, la caractéristique du peuple et du gouvernement sont interreliées. Les gens se considèrent comme étant le gouvernement, contrairement à la conception occidentale qui parle du gouvernement comme étant « il » et non comme étant « eux ». La polis athénienne se différencie, contrairement à la polis spartiate, parce qu'elle fait une distinction entre la sphère privée et la sphère publique, comme nous en Occident. La polis spartiate ne fait pas de différence avec la sphère publique ou la sphère privée. Pour eux, tout est public. Il existe aussi des ressemblances entre l'État moderne avant les années 20 et la réalité grecque de l'époque, surtout au niveau du statut de la femme qui n'avait aucun droit et devait se ranger derrière l'idéologie de leur mari. Il n'y avait aussi pas de police ou d'armée pour faire respecter l'ordre, ce qui est très différent d'aujourd'hui. Dans une même police, les gens peuvent avoir une identité ethnique semblable, comme la langue, les croyances, mais ils pouvaient être complètement distincts au niveau du plan politique. C'est comme ça qu'on distingue les différentes polices. Merci. Maintenant, Jeanne, pourrais-tu nous parler de ton article, s'il te plaît?
Oui, donc moi, mon article était aussi plutôt axé sur la politique. Premièrement, je vais vous parler, dans mon article, je vais parler des grands empereurs qui ont vécu en Grèce antique. Mais en premier lieu, je vais vous parler de la royauté à Sparte, qui était vraiment un cas unique dans la Grèce antique. En effet, les citoyens de cette cité-là étaient dirigés par deux rois ayant un pouvoir égal. Cette situation particulière-là, le fait de cette ville-là est vraiment un cas unique en Grèce antique. Cette double royauté-là est venue parce qu'il y avait comme deux dynasties dans la ville. Il y avait les Agiades et les Euripondides. Donc, c'est ça. Donc, c'est né de ces deux dynasties-là, qui étaient un peu égales. Donc, ils ont décidé, OK, on va faire deux rois. Comme ça va être plus simple. Pourquoi il y a deux rois? Il y a quelques avantages. Premièrement, ça peut empêcher la tyrannie parce que justement, il est pas tout seul. Donc, il peut pas vraiment être tyran à deux. S'il y a un des monarques, justement, qui abuse de son pouvoir, l'autre, il est là pour le ramener à l'ordre, puis ainsi préserver la stabilité du système politique. Également, un des deux rois doit absolument rester à Sparte lorsque la cité est en guerre. Donc, ça évite toutes les perturbations qui pourraient arriver. Puis aussi, justement, s'il y a un des deux rois qui meurt au combat, ben, il y en a un autre qui est là pour préserver l'ordre. Un des rois les plus célèbres de Sparte, c'est Léonidas Ier. c'est certainement celui qui est le plus connu. Il a été au pouvoir de 491 à 480 avant Jésus-Christ. Puis, dans le fond, lui, il est célèbre parce qu'il a dirigé ses hommes dans une bataille face à l'armée perse. Léonidas, il avait pris 300 soldats avec lui, puis il est allé se poster dans les Thermopyles. Ça, c'est un passage étroit entre deux montagnes pour y attendre les Perses. L'armée, elle a résisté vraiment longtemps, mais elle a été déclassée par la supériorité de l'ennemi. Donc, Léonidas est mort dans cette bataille légendaire-là. Puis, puisqu'il a marqué l'histoire de Sparte, il y a des fêtes qui ont été organisées en son honneur. Maintenant, je vais vous parler de la domination macédonienne. La Macédoine, c'est un pays situé au nord de la Grèce. Puis, il y a des grands rois qui ont siégé sur son trône. Et donc, Philippe de Macédoine II, il est monté sur le trône à l'âge de 24 ans. Puis, il a gouverné jusqu'en 336 avant Jésus-Christ. Cette année-là, justement, il a été assassiné lors d'un banquet. Philippe II, c'était un grand guerrier, puis un diplomate talentueux. Donc, après avoir fait plusieurs voyages en Grèce, il a vu qu'il y avait une grande instabilité politique, puis il a fait des grands projets pour y remédier. Il voulait s'imposer comme souverain absolu dans son propre pays, pour ensuite faire campagne en Grèce, afin de convaincre la population de suivre dans sa lutte contre les Perses. Ça, c'est l'ennemi naturel de l'Occident, c'est l'ennemi naturel de la Grèce. Puis Philippe II, il rêvait d'être vu comme le sauveur de la Grèce, ayant triomphé des Perses. Au début de son règne, son royaume, c'est pas vraiment une grande puissance. Donc Philippe II, il devient conquérant. Il agrandit la Macédoine en gagnant des territoires proches à proximité de la Grèce. Puis, dans le fond, il s'approprie une partie de la Thrace. Puis, il prend des mines d'argent et d'or. Il unifie son nouveau pays, puis il fait une capitale qu'il appelle Pella. Son esprit de conquête le force également à faire une réorganisation complète de son armée, puis il développe des nouvelles techniques de combat. Ça rend son armée plus efficace. Il a créé la phalange. Ça, c'est une armée qui est munie de saris. Les saris, c'est des grandes lances qui mesurent 5 mètres de haut, puis ça couvrait en hauteur la totalité des troupes, donc c'était comme une armée infranchissable. Donc voilà pourquoi on le connaît. Un autre Macédonien qui s'est illustré dans l'histoire, c'est Alexandre le Grand, mais je vais pas trop en parler puisque Alexandre nous a fait son portrait précédemment. Donc Alexandre le Grand, c'est le fils de Philippe II, puis il a vraiment marqué l'histoire de la Grèce antique. Puis finalement, je vais vous parler du premier tyran d'Athènes qui s'appelle Pisistrate. Donc c'était un fils de noble puis un homme d'état d'Athènes, puis ça a été vraiment le premier véritable tyran d'Athènes. Il s'est mêlé aux différentes luttes politique dans la cité, puis il a trouvé le moyen de séduire l'assemblée grâce à son éloquence. Et donc après ça, il a simulé un attentat avec ses gardes du corps, puis il s'est emparé d'Athènes, puis il s'est proclamé tyran. La tyrannie, ça a vraiment une connotation négative, mais Pisistrate, il a été en quelque sorte un bon tyran. C'est sûr qu'il était contre l'aristocratie puis la démocratie, mais il voulait favoriser le développement de l'agriculture dans la cité, donc il prêtait de l'argent aux agriculteurs pour engendrer des meilleures récoltes, au niveau surtout de la culture des oliviers. Puis, il a comme rétabli un équilibre social. Donc, c'est pour ça que Pisistrate, il a pas juste eu des mauvais côtés. Dans le fond, la tyrannie à Athènes avec Pisistrate a pas juste eu des mauvais côtés. Donc, voilà, c'est ce qui conclut mon article sur les grands empereurs de la Grèce antique. Donc, on a un segment spécial sur les Jeux olympiques. Cet été, ils se déroulent à Rio. Ces Jeux olympiques-là, en fait, sont historiques parce que c'est la première fois qu'on présente les olympiques en Amérique du Sud. Pour les intéressés, ils vont être présentés du 5 août au 21 août. Puis aussi, une petite nouvelle en exclusivité comme ça. Il y a des nouvelles disciplines qui se sont faites ajouter, dont le golf et le rugby à 7. Donc, c'est à voir. Donc, pour ce segment-là, on va vous parler un peu des Jeux olympiques dans l'Antiquité. Ariel, si tu pourrais nous faire une petite introduction, s'il te plaît.
Bien sûr! Les Jeux olympiques, comme nous les connaissons, viennent de l'Antiquité, plus précisément de la Grèce, dans le Péloponnèse, il y a environ 3000 ans. Ils se déroulaient à Olympie. Comme je l'ai dit, on connaissait pas exactement la date où ils ont commencé, mais la première trace écrite nous date de 776 avant Jésus-Christ. Les traces écrites nous proviennent principalement des nombreuses descriptions tirées de la littérature antique ainsi que des objets retrouvés lors de fouilles archéologiques. Historiquement, les Jeux sont instaurés afin de donner une unité au monde hellénique, alors fragmenté en cités-états et constamment en guerre. Les Jeux sont comme aujourd'hui et ils se présentent à tous les 4 ans. Cette période de 4 ans prend le nom d'Olympiade et sert de datation. Le temps ne se compte pas en années, mais en Olympiades. Les Jeux olympiques font partie des Jeux pan-helléniques, dont ils englobent les Jeux d'Olympie, les Jeux Delphes, les Jeux de l'Inphe, de Corinthe, les Jeux de Némée. Les gens se déplacent pour assister aux Jeux, animés par un sentiment commun, leur appartenance à une même culture et à une même religion. Par contre, différence comparativement à aujourd'hui, les participants ne proviennent pas du monde entier, mais seulement de la Grèce. Au début des Jeux olympiques, on a droit à une trêve sacrée. Des messagers se déplacent de cité en cité pour annoncer la date des compétitions. Ils exigent l'arrêt des combats avant, pendant et après les Jeux, afin de permettre non seulement aux athlètes, mais aussi aux spectateurs de se rendre sur les sites en toute sécurité et à l'aller comme au retour. Une période de paix doit régner à l'occasion de ces concours. Les Jeux panhelléniques ont un caractère religieux très important. Chaque jeu est célébré en l'honneur d'un dieu précis. Zeus, le roi des dieux à Olympie et à Némée. Apollon, le dieu de la lumière et de la raison à Delphes. Et Poséidon, le dieu des mers et des chevaux à Lynx de Corinthe. Des 4 Jeux olympiques, ceux des Jeux panhelléniques, ceux d'Olympie, sont les plus importants. Olympie, ce n'est pas une cité mais un sanctuaire. On y retrouve des lieux d'entraînement, de compétition et tous les bâtiments servant à l'administration des Jeux ou à l'accueil des hôtes de marque. Par contre, seuls les prêtres et le personnel chargé de l'entretien du sanctuaire résident à Olympie. Au moment des compétitions, des athlètes, des spectateurs et des marchands de toutes sortes affluent sur le site. On estime à plus de 40 000 le nombre de personnes présentes lors des Jeux olympiques.
Merci Ariel. Alexandre, est-ce que tu veux nous parler des athlètes un peu?
Ouais, moi, je me suis intéressé un peu aux athlètes. Fait que devant une sculpture ou même une peinture sur un vase, on peut facilement reconnaître un athlète dans sa nudité. Oui, un athlète s'entraînait nu. En effet, pour l'entraînement et la compétition, les athlètes sont toujours nus, car ils doivent refléter l'idéal d'un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit.
C'est intéressant, c'est plus comme ça aujourd'hui, hein?
Non, vraiment pas. Selon cet idéal, celui qui entraîne son corps peut développer aussi son esprit. Alors, il y avait des gymnases. Chaque cité grecque a son gymnase et sa palestre. C'est là que s'entraînent les athlètes et les jeunes garçons qui reçoivent leur éducation. L'enseignement comprend l'exercice du corps et de l'esprit, éducation physique, musique, arithmétique, grammaire et lecture. L'hygiène et soins corporels, lorsque l'athlète arrive au gymnase ou à la palestre, il se déshabille complètement. Ainsi, privé de ses vêtements, l'athlète doit protéger sa peau. Pour se préparer à l'entraînement, il s'enduit le corps d'huile d'olive et le recouvre ensuite de sable fin. L'huile et le sable servent à régulariser la température du corps et à le protéger du soleil et des coups de bâton que l'entraîneur peut lui infliger si les exercices ne sont pas faits correctement. Donc, on peut conclure que les entraînements étaient très disciplinés. Ensuite, je vais parler un peu de la sélection des participants aux Jeux. Les principaux critères de participation aux Jeux sont... Il y en a 3. Il faut que ce soit un homme, il faut que son origine soit grecque et il doit être libre. Cela dit, les femmes, les esclaves et les étrangers sont exclus des Jeux olympiques. La plupart des athlètes sont issus de familles riches. Seuls les mères aussi sont admis aux Jeux. Les participants s'entraînent individuellement pendant des mois. Puis 4 semaines avant les Jeux, ils se rendent à Ilis, une cité proche d'Olympie, pour retrouver tous les autres participants. Une sélection détermine ceux qui peuvent se rendre à Olympie. Ils prêtent alors serment, promettant ainsi de participer aux compétitions avec loyauté et dans le respect des règles. Moi, je vais parler un peu de plusieurs athlètes qui ont marqué l'histoire de l'Antiquité grecque. Tout d'abord, je vais commencer en expliquant que l'exercice physique constitue une partie importante de l'éducation de l'Antiquité. Il y a également des athlètes hautement spécialisés qui suivent des programmes d'entraînement et participent à de nombreuses compétitions. Dans le fond, je vais commencer avec le fameux lutteur Milo de Crotone. Il tient le devant de la scène dans la seconde moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ. Il est 6 fois vainqueur à Olympie, 7 fois à Delphes, 10 fois à l'Isthme de Corinthe et 9 fois à Némée. Il devient ainsi le sportif le plus couronné de l'Antiquité et reçoit pour cela le titre périodonique, ce qui est qu'un athlète peut gagner les 4 titres des Jeux olympiques panhelléniques. Alors, Milon est non seulement célèbre pour ça, pour sa force légendaire, mais aussi pour son appétit insatiable. Donc, il y en a d'autres, dont Théogène de Sassos, Léonidas de Ronde et Diagoras de Ronde. Dans le fond, ces athlètes sont considérés comme des héros et des exemples à suivre. Ces athlètes sont célèbres au-delà de leur mort. Sur leur stèle funéraire, on sculpte les couronnes remportées au jeu afin de rappeler leurs exploits. Sur la tombe de l'un d'eux, on construit même une école.
Merci Alexander, ouais, c'est vraiment plaisir. Intéressant.
Ouais, ouais.
Maintenant, Jean, est-ce que tu peux nous parler du déroulement de ces jeux?
Oui, dans le fond, les jeux, ils durent 5 jours. Puis j'aime plus mettre l'accent sur les sports qu'on y pratique. Donc, c'est juste des épreuves individuelles, contrairement à aujourd'hui. Donc, je vais vous énumérer les compétitions qu'il y a. Les plus populaires, c'est les compétitions hippiques. Ça, c'est avec les chevaux. Il y avait la course aux 4 chevaux qui était vraiment la plus populaire. Il y avait celle aussi avec des poulains. Et aussi la course de chevaux montés. Et un petit fait intéressant, c'est les propriétaires des chevaux qui devenaient champions olympiques, même pas ceux qui les montaient. Donc, ceux qui étaient propriétaires des écuries gagnaient les récompenses.
Ouais, c'est intéressant à comprendre aujourd'hui.
C'est ça, hein? C'est drôle. OK. Il y avait aussi le pentathlon. Ça, c'est comme un peu l'ancêtre du décathlon. Ça comportait 5 épreuves. Le lancer du disque, le saut en longueur, le lancer du javelot, la course et la lutte. Donc, ça aussi, c'était quand même une grosse épreuve. Les gens aimaient bien ça. Il y avait aussi les courses à pied. Il y avait la course du stade. Ça, dans le fond, c'était une longueur de stade. Ça correspondait à peu près à 192 mètres. Il y avait le diolus. Ça, c'était 2 fois 192 mètres. Donc, un aller-retour du stade. Le dolichus. Ça, c'était une course longue distance. Qui fait être de 7 à 24 fois le stade. Donc, c'était quand même long. Fallait que t'ailles du souffle. Puis, il y avait aussi la course en armes. Ça, dans le fond, c'est des athlètes qui étaient tout habillés avec une armure et des épées et ils faisaient la course.
Moi, j'ai une question pour toi. J'ai entendu parler que durant une journée, il y avait un sacrifice quelconque. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails?
Oui, en fait, c'est pendant la 3e journée. Il y avait pas de compétition qui se déroulait. Puis, ils sacrifiaient 100 bœufs. Je vous le dis, 100 bœufs. Pour, dans le fond, c'est pour s'attirer les faveurs des dieux. Donc, c'est quand même un peu triste, je trouve.
Ouais, c'est étrange.
C'est étrange, c'est triste, mais c'était les coutumes d'autrefois. Exactement. Puis, il y avait aussi les sports de combat, donc la lutte, la boxe, puis il y avait le pancrace. Ça, c'est une lutte très violente qui autorisait tous les coups, sauf mordre, arracher les yeux de son adversaire et mettre ses doigts dans le nez de son adversaire. Donc, on s'imagine comment ça peut être violent comme combat. Voilà.
Merci, Jeanne. Alors maintenant, passer à Michael et les récompenses.
Oui. Donc, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que pour les Grecs, au niveau des récompenses, c'était surtout par rapport à la réputation. Un matériel en tant que tel, il n'y a pas trop de récompenses établies. Ça change d'une fois à l'autre, souvent même. Par exemple, il y a une fois où la cité du champion a décidé d'abattre une partie de ses murailles pour lui permettre de rentrer par une porte où personne n'était rentré avant. Dans une autre situation, le champion a fini ses jours aux Britanniques, qui était une place de luxure, en gros. Il a été entretenu aux Britanniques tout le restant de ses jours. Mais de façon générale, pour les Jeux panhelléniques, il y a des médailles qui sont décernées dans tous les Jeux autour, parce que les Jeux panhelléniques comprennent 4 Jeux. Dans les 4 Jeux, il y a des médailles, comme de nos jours, or, argent, bronze, qui sont décernées. Sauf que pour les Jeux panhelléniques en général, qui englobent les 4 Jeux, donc le champion en moyenne des 4 Jeux, il y a juste un champion qui reçoit une couronne dont la composition change selon la ville. Par exemple, à Olympie, c'était une couronne d'olivier sauvage, à Delphes, une couronne de laurier, à Isthme, une couronne de pin, à Némée, une couronne de céleri, ça change selon la ville. Donc, comme je le disais, dans les Jeux panhelléniques, il y a juste un vainqueur, les autres, même le deuxième, troisième, sont pas reconnus. En plus de recevoir une couronne, le champion gagnait aussi une taïnia, qui était une robe en laine rouge, en gros. Des fois, il y avait des statues qui étaient faites du champion. Des fois, il recevait des palmes. Ça va être plus populaire au niveau des Romains, les palmes, mais ça arrivait aussi avec les Grecs. La raison pourquoi est-ce qu'il y avait des couronnes et que les récompenses matérielles étaient moins strictes, c'est que les Grecs de l'Antiquité, ils pensaient que c'était les dieux qui décidaient d'accorder la victoire à un athlète, et que la servante, la messagère des dieux, Niké, donnait la victoire à un des aux champions sous la forme d'une couronne de laurier ou autre. Donc ça, c'est pour ça, c'était beaucoup plus symbolique pour eux. Aussi, la majorité des choses que les champions grecs au niveau des Jeux olympiques gagnaient, c'était surtout symbolique, parce que c'était les Jeux olympiques en tant que tels étaient pour la gloire, pour déterminer quelle cité avait les meilleurs guerriers. Donc, quand un guerrier gagnait pour sa cité, ça faisait beaucoup de gloire pour la cité. Il y avait beaucoup de droits que les autres citoyens n'avaient pas nécessairement. Par exemple, ils pouvaient se déplacer à travers les différents territoires sans rien payer. Des fois, il y avait des droits que les autres citoyens n'avaient pas. Ils pouvaient faire pas mal ce qu'ils voulaient parce qu'il y avait une réputation tellement grande que les citoyens ne pouvaient pas vraiment s'élever contre lui.
J'ai une question pour toi, Michael. Est-ce que tu sais si Sparte était vraiment performante aux Jeux olympiques parce qu'on sait qu'ils ont vraiment des bons guerriers?
Oui, en fait, entre 776 et 399 avant Jésus-Christ, d'après les informations qu'on a, il y a eu 81 champions aux Jeux olympiques. De ces 81-là, 46 ont été spartiates. Donc, les spartiates avaient une domination, en fait, à ce niveau-là. Comparativement, Athènes aurait seulement gagné 16 fois. Donc, Sparte avait un régime militaire beaucoup plus intense que les cités autour, donc il y avait souvent des champions.
OK, ben merci.
Ça fait plaisir.
Ariel, est-ce que tu aurais une petite conclusion à faire sur les Jeux olympiques de l'Antiquité?
Bien sûr. Durant plus d'un millénaire, les Grecs, puis plus tard les Romains, se réunissent à Olympie pour célébrer ensemble la fête en l'honneur de Zeus et veiller à ce que les Jeux olympiques de l'Antiquité restent un événement majeur. Par contre, après l'interdiction de Théodose, des cultes païens sont petit à petit supprimés sur le site d'Olympie et abandonnés. Des tremblements de terre détruisent les édifices, leurs ruines disparaissent peu à peu sous la terre et le sable, il ne reste plus aucune trace visible du site. Grâce aux écrits des historiens de l'Antiquité, la mémoire des Jeux et leur place dans le monde grec ne s'efface pas complètement. On sait que ces Jeux ont existé sans connaître exactement leur emplacement. C'est en 1776 que le voyageur anglais Richard Chandler découvre le site de l'Antique Olympie. Il est fouillé à grande échelle quelques cent ans plus tard par des archéologues allemands. Aujourd'hui, l'étude du site archéologique permet de mieux connaître la grandeur des Jeux pan-helléniques et l'importance d'Olympie.
Ben, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut le podcast du CSH sur la Grèce antique. Je vous remercie beaucoup tout le monde de votre participation. C'était vraiment intéressant.
Ça fait plaisir.
Merci.
Ça m'a fait plaisir aussi.
Parfait. Donc, bye, à la prochaine.